Jean-Louis Berger dit la chose suivante, je reprends un peu ce qu'il dit. Il parle d'une densité urbaine ultra maîtrisée. Hein. C'est vrai que quand on compare à Montrouge, c'est juste 4 fois moins. Mais il rappelle que, justement, EFH a fait le pari, finalement, de l'accompagnement avec la collectivité. Il a parlé de vision immobilière, du projet. Mais il a aussi intégré, et c'est intéressant de le signifier, le facteur économique. Parce que sans une économie saine, profitable et rentable, il ne peut pas y avoir de projet. Donc, je trouve ça extrêmement intéressant que ce soit le maire qui dise le projet commercial de vente, c'est jamais démenti. Quand vous l'entendez, le maire, Delphine Boutier, est-ce que ça couronne finalement tous les efforts que vous avez faits pour accompagner la collectivité dans ce projet ?
Bah, c'est surtout un ingrédient absolument indispensable pour pouvoir mener à bien ce type de projet urbain et ce renouvellement des quartiers. Jean-Didier Berger le disait, on était sur un secteur de zone d'activité sur l'entrée sud de Clamart. Et l'ambition, c'était d'offrir du renouveau avec un ingrédient important. On le voyait sur les images tout à l'heure, c'est l'arrivée du tramway. Et on sait bien que les infrastructures de transport, et là pour le coup, on profite en plus d'une station de tramway au pied du quartier, sont des éléments absolument déterminants pour pouvoir
avec le tramway, on est dans Paris en combien de temps ?
Alors là, on est sur la ligne 6 du tramway qui d'un côté nous mène à Vélizy en une quinzaine de minutes et de l'autre côté Châtillon, la ligne 13 du métro également en 15-20 minutes. Donc ça, c'est un ingrédient déterminant
alors,
de la transformation.
Déterminant et un bassin d'emploi gigantesque parce que c'est une grande zone et dans laquelle on n'aura pas 3 heures de transport à faire, aller et retour chaque jour, comme beaucoup de Franciliens. Et avec, on en parlera tout à l'heure, des prix qui sont extrêmement importants, parce qu'on a pas mal d'auditeurs qui nous posent des questions sur les prix. Je vous dis, attendez un peu, on vous donnera des informations tout à l'heure sur différentes configurations. Ce qui est très intéressant, et je vais demander à notre ami Jason de nous mettre, et vous allez nous commenter, c'est qu'on revoit l'image de la démolition de cette tour Pentagone. Moi, c'est spectaculaire, hein, vous êtes d'accord ? On va la revoir. Jason, on va la mettre. Voilà. Delphine, c'est un projet considérable. C'était le siège historique de Bouygues.
Oui, exactement. Donc cette implosion, elle a eu lieu à l'été 2020, au sortir du confinement. Donc d'un point de vue technique, administratif, et voilà, il a fallu s'activer pour pouvoir mettre en œuvre cette démolition un petit peu particulière. C'était au-delà d'un choix qu'on a fait, c'est surtout la technique qui s'est imposée parce qu'on était sur plusieurs niveaux de parking. Voilà, les 4 niveaux de sous-sol qui ont été déconstruits avant l'implosion. Je pense que ce qu'on peut aussi constater à travers les visions aériennes de la démolition, c'est le quartier dans lequel s'insère Grand Canal. Mmh. On est dans un quartier d'activité en renouveau et de fait, le projet Grand Canal, c'est aussi venir intégrer du logement à proximité des emplois. Et c'est aussi la vision qui était développée à travers ce projet urbain. Sur la démolition en tant que telle, hein, ça faisait de nombreuses années que cette technique n'avait pas été employée en Île-de-France.
J'ai vu que vous récupériez des matériaux là.
Alors ça, c'est un fil conducteur qui, de toute façon, a été suivi sur toute l'opération. Là, il n'y a pas un camion de béton qui soit sorti à l'issue de la démolition. On a réutilisé la totalité des bétons concassés. C'était notre souhait. Et sur la question du réemploi au sens large sur l'opération Grand Canal, ça a été aussi le cas des terres qui étaient excavées pour la réalisation des parkings. On a fait en sorte d'en garder une très grande partie sur site. C'est à la fois
C'est impressionnant hein, quand on voit ça. Vous y étiez, vous y aviez assisté ?
Oui, bien sûr. C'était un moment d'émotion.
Vous y étiez
clair.
Aussi. Ça doit être impressionnant. C'est des artificiers spécialistes hein, qui font ça.
On était entourés, je vous le confirme, d'une équipe experte qui nous ont accompagnés. Ce qui est aussi une des marques de fabrique, c'était Eiffage Démolition qui participait à ce projet.
C'est extraordinaire. Là, le prochain chantier, vous m'invitez, je veux absolument voir ça de mes propres yeux. Je trouve ça impressionnant, l'équilibre. Vous avez une tour qui est emblématique, qui tenait... Et en quoi,
15 étages. 15 étages
en 3 minutes, même pas.
Ah non,
15 secondes.
On a du mal à compter le temps quand on est sur place, pour tout vous avouer. Je pense qu'en une dizaine de secondes, c'était
réalisé. Il y a un bruit comme ça autour, parce qu'on n'a pas vu le son, mais...
Il y a un bruit, ouais. Il y a surtout un grondement, et puis après, un nuage, et on se demande si tout est bien par terre. Mais oui, c'était le cas.
C'est extraordinaire. Vraiment, il y a quelque chose de presque onirique dans cette façon de voir les choses. Ensuite, c'est un projet... On l'a appelé tout à l'heure, le projet de l'Orfèvre, c'est la dernière partie d'un grand projet qu'on va l'appeler Grand Canal. Effectivement, l'Orfèvre, c'est la dernière partie du projet. On parlait avec vous, Aude, qui sera donc livré, vous me dites, en 2025.
Fin
c'est
2025.
Bien ça. Voilà, en 2025. Et je vous propose aussi que vous nous commentiez les images. C'est vos équipes qui ont fait ça. Ils ont fait un time-lapse. C'est-à-dire, vous savez, les amis, ce sont des images accélérées du projet d'aménagement avec la construction. C'est incroyable. Voilà, on va regarder quelques images.
Oui, on va les voir. Bah là, on revoit effectivement des images de la démolition. Alors, certes, moins spectaculaire que celle de
là. Là, c'est le cratère. Le cratère, c'est l'endroit où était la tour.
Non, là où on était sur une autre partie du quartier, puisque au-delà de la tour, il y avait d'autres immeubles de bureaux qu'on voit se faire grignoter. Voilà, la démolition, même si c'était spectaculaire pour la tour, c'est pas forcément toujours la partie noble du métier. C'est évidemment ce qui vient après qu'on souhaite mettre en avant. À travers ces quelques images, on voit tout le travail assez fin en fait d'organisation de chantier qu'on doit faire, et ça en partenariat avec les équipes des Fages Immobiliers. Donc c'est un peu toute la force de notre coopération à l'intérieur du groupe, hein, exactement. Et ce qu'on voit tranquillement se dessiner, c'est effectivement l'emprise des futurs bâtiments et des espaces publics. Donc là, ces images-là, elles ne mettent pas forcément encore en valeur la qualité de ce qui a été produit, mais entre 2017 et aujourd'hui 2022, on est sur un quartier maintenant qui vit avec des habitants, des espaces publics à vivre et qui sont le reflet de l'ambition dont on parlait tout à l'heure.
Delphine, on va voir justement, c'est vous qui allez nous commenter.
Oui.
Voilà le résultat finalement. On le voit.
Exactement. On a fait faire cette vidéo effectivement au moment de l'implosion de la tour, mais on voulait mettre en avant tout le projet sur ces 6 hectares à l'entrée sud de la ville de Clamart. Donc s'il y avait quelque chose à décrire, c'est l'identité de ce projet à travers une architecture art déco, années 30. Les images parlent d'elles-mêmes, avec une présence de l'eau un peu partout. On a un bassin d'agrément qui aujourd'hui est en eau et vit avec un bel espace public. Et puis Grand Canal, ce ne serait pas Grand Canal sans son canal, qui va également être mis en eau, on l'espère, au mois de juin prochain. Voilà, présence de l'eau à la fois pour l'agrément, mais également pour des questions environnementales, puisque le bassin qu'on voyait tout à l'heure permet de récupérer les eaux de toiture des bâtiments, extrêmement important.
Absolument.
Le groupe scolaire, monsieur le maire en parlait tout à l'heure, ça fait partie de ce qui fait vivre un quartier. Il y a une crèche également en matière d'équipement qui va permettre d'apporter du service, et puis à terme également un gymnase et des commerces. L'eau, on en parlait, également des fontaines en entrée de quartier, et puis ces façades commerciales le long de la route départementale. L'ambition environnementale du projet, on en a parlé avec la réutilisation des matériaux, mais c'est aussi cette chaufferie biomasse qu'on a...
Alors, justement, pour ceux qui nous écoutent, la biomasse...
La biomasse, on fait brûler du bois, je vais le vulgariser comme ça, et ça permet d'avoir, pour le quartier, 60% d'énergie renouvelable.
Dans ce que vous dites, je retiens ce que disait Jean-Didier Berger tout à l'heure. Il parlait de... On va en parler ensemble, mais la biomasse, le solaire, ce sont des énergies renouvelables. Parce qu'en fait, quand vous chauffez avec du bois, vous faites consommer du bois, c'est une énergie qui est renouvelable et c'est un stock, puisqu'on replante du bois systématiquement, peu importe les essences qu'on utilise. Le sujet, c'est que c'est renouvelable. Et ça, c'est un pari gagnant, parce que ça permet aussi d'envisager une structure tarifaire, on va dire budgétaire, qui est beaucoup plus intéressante pour les Français, et Dieu sait que c'est d'actualité, avec l'explosion des matières premières, et notamment des factures d'énergie.
Oui, tout à fait. Ça permet de maintenir la trajectoire de la facture énergétique. Et j'imagine qu'aujourd'hui, voilà, c'est assez déterminant dans le choix d'une acquisition.
Ben moi, je reprends vraiment votre terme de trajectoire de la facture énergétique, parce que je peux vous dire que bien malin celui qui pourra imaginer ce que seraient les factures dans le futur. Mais en tout cas, le fait que vous ayez imaginé ce mode-là permet de sécuriser le parcours. J'allais dire, peut-être sans paraphraser, que c'est quasiment une acquisition qui redonne du pouvoir d'achat. Voilà.